Yeah. À la une, cette question, les peines prononcées contre les trafiquants d'ice sont-elles inefficaces? Ce job dating à Moréa, 800 personnes pour 15 à 20 places et du surf pour terminer. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et Lucie, on commence avec ce débat sur les peines prononcées contre les trafiquants d'ice.
Oui, à entendre Moëtta et Bourversonne, elles ne sont pas assez dissuasives. Les annonces, tests ou vœux exprimés en Conseil des ministres ont relancé le débat sur l'efficacité de la lutte contre le trafic d'ice. 250 millions de francs seront débloqués au prochain collectif budgétaire à l'Assemblée. Les spécialistes du sujet applaudissent. Ils réclament depuis de longues années plus de prévention, plus de soutien aux associations, une meilleure prise en charge des addictions. Mais le président du pays a également renvoyé la patate chaude à l'État en demandant le déblocage de la même somme que le pays et en demandant aussi l'augmentation des peines des trafiquants. À l'occasion de l'officialisation d'un nouveau plan d'action de la sécurité du quotidien, le haut commissaire a assuré que l'effort de répression était déjà au maximum. Les peines sont déjà plus lourdes ici qu'ailleurs en France en matière de stupéfiants. Alors les augmenter encore, les propos de Moëtta et Bourversonne interpellent du côté du barreau de Papé été.
Du côté de la défense, ce qu'on constate, c'est qu'au fil des ans, les peines s'alourdissent de plus en plus, petit à petit, mais que le trafic, lui, continue toujours autant. Et on sait, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que la sévérité en elle-même ne suffit pas à arrêter un trafic. Ce qu'il faut derrière, c'est des moyens pour désintoxiquer les gens. Il faut mettre en place des centres de désintox, donner les moyens à la direction de la santé de pouvoir mener à bien ce genre de mission. C'est pas uniquement sur les peines.
Maître Thérèse Moana Elec, que vous venez d'entendre, insiste au passage, les seuls à même d'estimer les peines les plus adaptées sont les magistrats du siège, des magistrats qui n'ont pas d'ordre à recevoir du pouvoir exécutif. Et autre question, le lien entre PACA et ICE. Moëtta et Bourversonne a toujours milité pour un assouplissement de la réglementation sur le cannabis et regrette la fermeté de la justice sur ce trafic. Une fermeté défendue par le patron de la gendarmerie Grégoire Demaison, pour qui le PACA c'est le marchepied vers l'ICE, pas si évident pour Maître Smaïn Benoua.
Faut pas généraliser. C'est pas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a quelques plans de PACA que nécessairement c'est un trafiquant en devenir d'ICE. C'est une marchandise qui vient de l'extérieur. Et il faut d'autres moyens, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se déplacer, des gens qui ont une forme d'intelligence pour dissimuler cette marchandise. Et là, il y a une certaine logistique. Et ceux qui s'adonnent au trafic d'ICE, souvent c'est une minorité qui est en contact avec des personnes qui sont plus chevronnées, qui sont interdits de territoire à l'extérieur, qu'on ne peut pas quitter, ou qui sont parfois en détention.
Et puis c'est la détention aussi qui est venue au centre du débat. Certains regrettent le soi-disant confort de la prison. Un débat dans l'Hexagone aussi avec cette interdiction de toutes les activités ludiques en milieu carcéral. La perspective de passer quelques années à Totoutou avec salle de muscu et cinéma ne fait peur à personne, avait même dit Moëtta et Bourversonne lors de ses vœux au CESEC il y a quelques jours, ce qui n'est pas du tout l'avis de Maître Elec.
Quand on veut que les gens se réinsèrent, on évite de les traiter comme des animaux. Noutania, qui a été élue la pire prison de la République dans des conditions parfaitement indignes, est à 120% d'occupation au minimum. Tatoutou, on arrive à 80-90%. On aura beau dire que c'est le grand luxe, etc. Ce sont juste des conditions normales. Et ce sont les conditions normales de détention qui facilitent justement la réinsertion et qui évitent la récidive.
Même son de cloche du côté de Maître Benoît, pour qui parler d'une prison et dire que c'est du luxe est complètement invraisemblable. Une prison a des règles spécifiques avec des quartiers disciplinaires, des activités limitées, de la violence parfois et des contraintes. Pour les deux avocats qui ont vu passer des dizaines de trafiquants dans leur carrière, il n'y a aucun doute, la lutte contre l'ICE doit passer par autre chose que seulement de la répression.
On reste dans l'actualité judiciaire avec les assises.
Deuxième journée du procès de cet homme accusé d'avoir étranglé son enfant de 3 ans hier après les faits. Les témoignages et la description de la personnalité de l'accusé. La cour a entendu la mère de l'enfant. Celle-ci a décrit ses rapports avec l'accusé comme étant tendu. Il était jaloux, possessif et ses priorités allaient vers l'alcool, le sexe et les tripes. Elle reconnaît toutefois que l'accusé était gentil envers l'enfant. Et face aux questions de la cour, l'homme s'est énervé. « J'ai déjà avoué, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ?»« Comprendre », a répondu la présidente de la cour. Le procès se poursuit aujourd'hui et le verdict doit être attendu en fin de journée.
Et puis cet autre drame qui s'est déroulé aux États-Unis.
C'est là-bas où vivait Margot Nguyen, cette professeure de yoga qui avait monté son propre studio à Pirey il y a quelques années avant de partir vivre aux États-Unis. Elle a été retrouvée morte la semaine dernière. Son corps a été découvert nu dans l'allée menant à la maison de ses beaux-parents. Son mari Samuel Whitmore avait fui les lieux, mais il a été interpellé par la police et inculpé de meurtre. La mère du suspect, à elle, était retrouvée blessée dans la maison, mais ses jours ne sont pas en danger. Les proches de Margot, notamment ses amis ici, sont évidemment sous le choc.
File d'attente à rallonge, embouteillage aux abords de la mairie.
Et la foule qui s'entasse sous le seul espace extérieur couvert de la mairie de Teavaro, essayant de se protéger du soleil. À Morea, hier, un job dating était organisé par le groupe Mantovani, des enseignes Tahiti pas cher, Tahiti Maison Déco et Gémeaux. Mais il a tourné court en cause une trop forte affluence de demandeurs d'emploi. 800 personnes qui sont venues sur place pour 15 à 20 postes vacants. Avec seulement 8 recruteurs sur place, impossible d'absorber à tel flot de candidats. Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé. Certains ont dénoncé un manque de préparation, un lieu trop petit. D'autres ont regretté le manque de communication. Le directeur général du groupe, Jérôme Gualina, leur répond.
Nous, on ne va pas rentrer dans la polémique. On remercie déjà la commune de nous avoir prêté une salle et on remercie les personnes qui sont venues. Après, il était difficilement imaginable de voir autant de personnes venir candidater. Donc, on les remercie encore d'être venus et on sait désormais de quelle manière on va pouvoir justement gérer les choses sur la prochaine session.
Voilà, une prochaine session qui sera prévue d'ici le mois de mars. Et quant au chantier de construction des nouveaux magasins Gémeaux et Tahiti pas cher sur Morea, il avance bien. La direction dit vouloir ouvrir dans les meilleurs délais.
En parlant de job dating, Claude Panero a retrouvé un poste.
Oui, après l'hôpital, le secrétariat général adjoint. L'ancienne directrice du CHPF de Taoné est pressentie pour devenir l'adjointe de Philippe Macheneau, qui dirige le secrétariat général du gouvernement, un service dédié à l'assistance juridique du président du gouvernement et des services du pays qui diffuse la loi au grand public.
Il est 7h07, on ouvre une page sport avec cette nomination dans le monde du surf.
Kevin Bourez est devenu le nouveau cadre technique fédéral de la Fédération Tahitienne de Surf. Il devra mener deux gros programmes, la mise en place du centre de performance polynésien et le projet Héritage. Il faut désormais offrir une belle structure aux jeunes espoirs et les accompagner dans leur performance sportive, surtout qu'ils sont encore plus motivés après les résultats de Vaine Fiero et Kaoli Vast l'année dernière.
J'ai un objectif, on va dire, c'est large, c'est que je suis un surfeur avant tout. Et j'ai vécu de belles choses grâce au surf. Et moi, c'est dans un esprit de transmission, c'est de permettre à ces jeunes de vivre au moins la même chose que moi j'ai pu vivre les années précédentes dans ma jeunesse. C'est de leur permettre de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Du coup, au travers du projet CPP, pour moi, c'est avec le projet Héritage, c'est vraiment les deux gros projets sur lesquels j'ai vraiment envie de m'investir à fond et de développer vraiment la chose.
Le projet CPP, il s'agit bien sûr du centre de performance polynésien, une école pour les meilleurs qui pourrait être lancée à la rentrée prochaine. C'est en tout cas le souhait de Kevin Bourez. Et puis le projet Héritage, lui, va commencer dans quelques jours avec l'accueil de jeunes espoirs français qui viennent s'entraîner ici à Tahiti pendant un mois avant que les Tahitiens, à leur tour, partent en France pour s'essayer sur les vagues de l'Hexagone.
C'est vraiment préparer, tester, voir comment chacun se débrouille dans des environnements où ils ont moins l'habitude d'évoluer et faire des échanges aussi au niveau des coachs, échanges de compétences. Donc, je préfère pas encore annoncer qui seront les coachs, mais on a des coachs locaux qui sont super performants et on a des stars un peu du surf local qui veulent s'investir dans ce projet. Donc c'est un très très beau projet avec des moyens corrects pour faire de belles choses.
Quoi. Voilà, ce projet Héritage vise la préparation aux prochains Jeux Olympiques, Los Angeles en 2028 et Brisbane en 2032. Et des talents en Polynésie, il y en a. Ils savent désormais qu'atteindre le plus haut niveau est possible. Parmi ces espoirs, il y a Tia Zebrowski ou encore Kiara Gold, toutes les deux qualifiées en Challenger Series. Si elles réussissent leur prochaine saison, elles pourraient rejoindre Vaine Fiero sur le Championship Tour dès l'année prochaine. Pour la Fédération Tahitienne de Surf, le choix de Kevin Bourez pour porter tous ses espoirs n'est évidemment pas un hasard. On écoute le président de la Fédération Tahitienne de Surf, Max Vasna.
Ça nous permet justement d'avoir quelqu'un qui connaît bien le surf, qui a tous les diplômes qu'il faut et qui a une vision et qui est un athlète professionnel aussi. Hein. Donc il va apporter toute son expérience pour mettre en place le centre de performance polynésien aussi. C'est l'ambition de la Fédération de mettre en place cette année. Donc on a besoin d'un cadre technique et on est ravis que Kevin nous rejoigne voilà, officiellement en tant que plus en tant que volontaire, mais en tant que salarié et technicien de la Fédération Tahitienne de Surf, qui en avait bien besoin d'ailleurs.
Voilà, beaucoup de projets et d'enthousiasme après une année 2024 particulièrement réussie.
Et culture pour terminer avec le festival TVVO.
3 semaines, 3 thèmes, 3 pièces et 3 films, autant d'occasions de débattre des grands sujets qui traversent nos sociétés. Cette année, TVVO aborde la perte du langage, le pouvoir et le rapport à la technologie. Ça commence demain et d'ailleurs, nous recevrons ce matin des comédiens et la metteur en scène de la première pièce qui sera présentée, Le Village des Sourds. un conte de Léonore Confino qui traite de la perte du langage. Ce sera donc en direct sur Radio 1 à 8h après le flash et sur Thierry FM à 8h15. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.